おかしいおかしい。
Bonsoir. Visite du chef de l'État Joseph Kabila au site du déraillement du train de la SNCC à Kakiné au Kasaï occidental. Déraillement qui a fait plus de 150 morts la nuit du 1er au 2 août dernier. Retour des trésors Kapuku, gouverneur de la province du Kasaï occidental aux affaires. La Cour suprême de justice a jugé inconstitutionnelle la motion de défiance décrétée par l'Assemblée provinciale. Ouverture des états généraux des affaires foncières, ils se tiennent à Kinshasa, au centre Nganda, objectif poursuivi par les gouvernements qui les organisent, mettre de l'ordre dans l'acquisition et la possession des terres. Voilà les sujets qui seront débattus dans cette tribune de la presse. Et dans ce studio, nous avons Désiré Bahiré, rédacteur en chef du journal Les Citoyens, Dany Ndungidi, journaliste au quotidien Uhuru, et Kalala Chimankinda, éditeur du journal Tendance. Au téléphone, nous aurons Patrick Kassong, directeur des programmes de la radio-télé évangélique des mondes au Bas-Congo. Nous devrions aussi avoir depuis Lomé au Togo, Fabi Kwasu, correspondante des BBC et directrice des programmes de la radio Nostalgie. Malheureusement, la ligne téléphonique a posé problème. N'empêche, avec nos invités présents, nous animons cette émission. À tous, nous disons bienvenue. Deux jours après la fin du deuil national décrété à la suite de la mort de plus de 150 personnes succombées dans les déraillements du train, le président de la République, Joseph Kabila, est allé mercredi au site de l'accident à Kakiné, à 170 km de Kananga. Après s'être recueilli au site de l'accident, Joseph Kabila s'est rendu à l'hôpital de référence de Kakiné pour consoler les rescapés de l'accident. Piro et la Mégis nous en parlent.
C'est aux environs des 13 heures que Joseph Kabila a foulé le sol de Kananga, un stop pour arranger les détails techniques. Aussitôt, le président s'est envolé d'abord sur le site de l'accident. Sur place, le chef de l'État a fait le tour du lieu de l'accident avant d'écouter les explications du comité des districts et du gouverneur de la province à bord de son hélicoptère. Une vingtaine de minutes plus tard, Joseph Kabila et sa suite sont partis à l'hôpital général de référence de Kakiné. À l'hôpital, les rescapés sont sur des lits métalliques, certains des lits sans matelas et d'autres sur des nattes. Plus grave, le président de la République arrive à Kakiné à un moment où une bonne partie de la nourriture convoyée par le gouvernement dans la localité n'est pas encore arrivée. Partout où il est passé, le président Kabila a eu le mot de consolation pour les uns et les autres. Le deuxième hélicoptère de la MONUC qui a transporté l'équipe d'accompagnement du président a ramené à son bord 12 blessés nécessiteux d'un traitement plus approfondi. De Kananga, Piro et la Meji, Radio Okapi.
Désiré Bahiré, nous commençons avec vous. Vous êtes rédacteur en chef du journal Les Citoyens. Vous l'avez suivi, le chef de l'État était à Kakiné sur le site de l'accident. Quelle interprétation faites-vous de ce déplacement de Joseph Kabila à Kakiné?
Bon, il faut d'abord apprécier ce geste du président de la République. On dit qu'il est père de la nation et à ce titre-là, je crois qu'il doit suivre de près tout ce qui se passe dans le pays. Et quand il y a une catastrophe avec autant de morts, je pense que c'est une bonne chose de sa part qu'il puisse aller au chevet des blessés. Mais aussi constater les dégâts et également faire le suivi de tout ce qui doit être fait pour qu'on n'arrive plus à de telles situations. C'est ça. Pour moi, j'apprécie son geste, mais en même temps, je note que ça ne nécessitait pas la présence du chef de l'État pour qu'on puisse acheminer l'aide qui était déjà là depuis des jours. Et nous avions suivi les reportages de votre confrère, mais nous avons aussi suivi les informations de là. C'est quand même, cela dénote un peu un certain désordre qui règne aussi au niveau de la coordination des actions gouvernementales. Il y a eu un groupe de ministres qui est parti, et puis ces ministres sont rentrés ici. On a filmé, on a médiatisé leur arrivée là-bas, et puis après, ce qu'ils devaient amener, ils n'ont pas amené, et ça traînait encore à Kananga.
L'aide est toujours en route.
Ah oui, mais ceux qui ont amené l'aide, ils sont déjà rentrés à plus de 1000 km, si je ne me trompe pas, d'ici à Kananga.
Une sorte de négligence.
C'est une sorte de négligence, mais c'est aussi le désordre qui règne quand même. Parce que quand on est responsable, le gouvernement doit prendre en charge et doit être quand même assez responsable de tous les actes qu'il pose. Je pense que la délégation gouvernementale était partie d'abord pour les blessés, pour les personnes qui étaient encore en vie. parce que les bons, ils sont déjà morts. Mais les ministres ont apporté de l'aide, mais de l'aide qui traîne encore quelque part, qui n'est pas encore arrivée aux bénéficiaires, ça c'est à déplorer.
C'est dommage. Oui, alors, Dany Ndungibi, vous êtes journaliste au quotidien Uhuru. Quelle lecture avez-vous de ces déplacements de Joseph Kabila?
Et je pense que ce n'est qu'une situation normale que le président de la République puisse se déplacer là où il y a une catastrophe, comme ça s'est fait partout ailleurs dans tous les pays du monde. Cependant, comme le dit notre opinion, on aurait également voulu voir le président aller notamment au Bas-Congo, quand il y avait eu ce qu'il y a eu là-bas,
les incidents.
Les incidents, oui, dernièrement en Mbandaka.
Donc, aussi plus de 100 morts,
oui. Dernièrement en Mbandaka également, il y avait eu un incident. Bon, même s'il n'y est pas allé, bon, il a quand même envoyé une délégation gouvernementale, c'était quand même bien. Mais une certaine opinion estime que, comme il l'a fait pour Katsenge, il aurait également pu aller à
Bas-Congo,
à Mbandaka. Mais c'est un geste appréciable pour soutenir les blessés, les familles des victimes, et aussi pour se rendre compte de la réalité sur le terrain du Congo profond.
Patrick Kassong, vous nous écoutez?
Je suis en ligne.
D'accord. Pour vous, la descente de Joseph Kabila à Kakéné a quelle signification?
Bon, c'est une descente d'un président de la République qui prend ses responsabilités, effectivement. Il se conduit en bon père de famille. C'est vrai, avec ce que vient de relever Dany Ndungibi par rapport à l'autre opinion, ben c'est vrai, comparaison n'est pas raison, mais c'est vrai que les présidents de la République, à chaque fois qu'une province souffre d'un mot, d'une façon ou d'une autre, il serait mieux qu'ils descendent sur terrain. Mais c'est vraiment une très bonne lecture, il est allé, un geste de consolation, de reconfort pour toutes ces familles-là, c'est vraiment appréciable. Mais il faudrait également relever le fait qu'il y a eu une délégation du gouvernement qui est allée, qui a précédé le président de la République, qui était, c'était cette délégation qui a amené les vivres, le secours auprès de nos frères, ceux qui sont tombés, ceux qui avaient besoin de secours. Moi, à mon sens, il aurait fallu que le ministre de la Santé reste et attende jusqu'à ce que ce que eux avaient apporté comme soutien arrive et y voit, parce que au regard de la politique, la province de Kananga, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas encore de gouvernement. Donc c'est au gouvernement central de prendre cette responsabilité. Donc jusque-là, mais le geste du président de la République est appréciable.
Oui, nous revenons ici au studio. Kalala Timankinda, vous êtes l'éditeur du journal Tendance. Quelle analyse votre journal Tendance a-t-il fait du déplacement de Joseph Kabila au site du drame?
Écoutez, c'est tout à fait normal que le président soit descendu sur les lieux, mais moi je crois qu'au stade où nous en sommes maintenant, les têtes descentes ont juste le mérite d'être couvertes par les médias. Comme on a dit tout à l'heure, les ministres sont partis, et aussitôt ils ont déposé les vivres à Kananga et ils ont repoussé chez Kinshasa. Mais ici, je crois peut-être qu'on devait aller plus loin en se posant la question de savoir pourquoi ce genre de catastrophe arrive. Est-ce que c'est normal que des gens montent dans des wagons réservés aux marchandises? Est-ce que la société nationale des transports ne peut pas mettre en place des trains corrects que les gens peuvent emprunter en temps normal? Je crois que là, on a l'impression que souvent des choses comme ça arrivent, tout le monde va s'apitoyer sur ce qui est arrivé et aussitôt après, on va oublier, on ne va sanctionner personne et certaines personnes vont partir comme ça. Il faut que dans ces pays, qu'on commence à arriver quand même à des stades où il y a des responsables qui doivent être punis négativement, tout comme aussi positivement. Quand quelqu'un n'a pas bien fait son travail, je suis dit, je crois, sur ma thèse, une radio, on a parlé de la DG et des responsables d'entreprise qui disaient que la SNCC n'avait pas des droits.
Oui, nous allons arriver à passer la part des responsabilités, mais je voulais juste savoir c'est que l'analyse que votre journal a faite par rapport à la descente de Joseph Kabila.
Le chef d'État est parti, c'est comme on l'a dit, c'est pour des raisons protocolaires, ça n'a rien à voir, on arrive, on s'apitoie, aussitôt on rentre. Ceux qui sont là, ceux qui ont dans la souffrance, ils vont rester avec la souffrance. Donc le problème, c'est de résoudre les problèmes déjà et non pas de faire des visites claires, plus juste pour la consommation extérieure.
Oui, car là, je ne vous lâche pas, à part qu'à Kakiné, on a vu le chef de l'État visiter le site Katende, le site prévu pour l'érection d'un barrage hydroélectrique. C'est pour dire qu'il prend cette fois-ci lui-même les choses en main pour l'électrification de cette province qui paraît comme un mythe.
Moi, je ne pense pas parce que je sais que dans ce pays, il y a presque 10 ans, il y avait une ONG pilotée par M. Tchongo qui s'appelait, je crois,
Codesco.
Codesco a même fait des cotisations dans cette ville pour ériger ce barrage-là. Il n'y a pas longtemps, il y a eu des ministres qui ont descendu sur les lieux avec des équipes de Sud-Africains. Et ça, c'est pour juste peut-être, je ne sais pas, parce qu'à Canada, il y a deux problèmes qui se posent. Soit on doit faire ce barrage-là, soit on doit soutenir le courant à partir du site de Tchongo. Quelle option on lève? On a l'impression qu'on est tenté de jouer sur des projets. Il faut que les gouvernants puissent arriver un jour à se décider si c'est ce qu'on doit faire. J'ai même appris qu'il y avait une équipe de blancs qui est arrivée ici, logée à l'intérieur, pour seulement faire les types d'ici de Katine. Ils ont eu comme ça à prendre sur ce projet-là 5 millions de dollars. Et des choses comme ça, c'est pas correct. Je crois qu'il faut qu'on arrive à étudier des projets et à penser comment les finaliser. Sinon, chaque ministre qui viendra ira rendre visite sur les sites et puis on applaudit. Le lendemain, l'affaire est terminée.
Oui, revenons à l'accident, Désiré Bahiré. Les Congolais ont pleuré pendant 3 jours. Leurs frères et sœurs décédés dans cet accident. Ils ont essuyé les larmes lundi dernier, puisque c'était la fin du day. Pensez-vous que c'est fini? On doit s'arrêter là et pas de responsabilité à établir, pas d'endommagement?
Non, ça ne peut pas finir. Au contraire, ça ne fait que commencer. Parce qu'on pouvait peut-être accepter une sorte de moratoire pour les deuils. Et maintenant, il faut que les choses soient clarifiées. Pourquoi en est-on arrivé à ce niveau-là? Pourquoi on a des trains qui datent de l'époque coloniale, qui continuent à circuler? Pourquoi on n'entretient pas la voie ferrée? Pourquoi on ne sanctionne pas les machinistes et autres qui conduisent, qui dépassent la vitesse exigée? Je pense qu'il faut une enquête qui puisse déterminer vraiment les raisons de cet accident et, comme on l'a dit, que les coupables soient punis. Ça, il le faut. Deuxièmement, c'est qu'il faut à un moment prendre une décision. Aussi, bon, bien sûr, j'ai entendu l'ADG de la SNCC qui disait que la population aussi doit savoir la sécurité, c'est d'abord l'affaire des habitants, des personnes elles-mêmes, bien sûr, mais quand vous savez que quelqu'un est en erreur, il vient prendre les trains alors qu'il ne devrait pas prendre place à bord de ces trains, mais vous avez aussi la responsabilité de lui empêcher. Je pense qu'il faut que les gens apprennent quand même à un moment à considérer que vraiment on a failli et l'ADG, la SNCC, le ministre des Transports, ils doivent honorablement quitter leurs fonctions, c'est-à-dire démissionner. Ce sera vraiment une façon honorable et aussi d'honorer aussi la mémoire de ceux qui sont morts.
Démissionner, ce qui n'est pas dans la culture des Congolais.
Il faut en arriver.
Dany Ndouidi, vous avez suivi l'ADG de la SNCC, Société Nationale des Chemins de Fer, déclarer que la société n'indemnise ces personnes. Il traite les victimes du déraillement des passagers clandestins.
Bon, moi je pense que c'est une culture congolaise. Hein. On n'indemnise pas, c'est le gouvernement qui prend en charge les obsèques et il prend en charge les frais d'hospitalisation. Non, moi je pense que comme disent les autres confrères, il faut que l'on puisse mener une enquête. Même si on sait que les enquêtes ici au Congo n'aboutissent jamais. Mais ça aura quand même le mérite d'être fait et que les coupables puissent être sanctionnés. C'est bien de vouloir suspendre l'ADG au Kimé. On a suspendu l'ADG de la SNEL et de la JDSO dernièrement. Il n'y a eu aucune amélioration. Donc moi je pense que c'est plutôt, ça pose plutôt la problématique des moyens de transport chez nous ici au Congo. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est construire de bons chemins de fer. Il ne suffit pas de réhabiliter ce qui existe, ce que les colons nous ont laissé. Non. Il faut d'abord construire des bons chemins de fer et ce genre de catastrophe pourra être évité dans le futur.
Kala Lachimakinga, plus de 200 personnes sur un train marchandise qui passe inaperçu aux yeux des Corsus, des Ilebo à Kakine, pensant qu'il y a plus ou moins 20 gares. C'est curieux quand même qu'on les appelle des clandestins.
En fait, c'est curieux parce que
ce n'est pas fini. Et s'il vous était autorisé d'établir les responsabilités et sanctionner les coupables, comment allez-vous le faire?
Bon, écoutez, il faut commencer par la base. Je vois que l'État a quitté sans doute Ilebo. Quand les trains marchandises circulent, généralement, les wagons sont fermés avant que les trains quittent la gare. Et ici, si les gens ont pris place à bord, sans doute il y a quelqu'un qui a empoché quelque chose. Donc on peut commencer par le chef de gare, qui a vu ces gens la monter. Le machiniste, quand il a démarré, il ne peut pas partir sans savoir qu'à bord de ces wagons, il y avait des personnes qui sont montées sur les marchandises ou même sur les toits de wagons. Donc à ce stade-là, on peut voir les responsables au niveau du Lebo et on va remonter la pente pour que chacun puisse répondre devant ses responsabilités. faut pas que tout le monde puisse se dérober en disant, écoutez, ça a été marchandise, par conséquent, on ne peut pas prendre des choses en main. Il faut qu'on dégage les responsabilités. Si la DG qui a préféré rester dans son bureau climatisé, c'est tout à fait normal, mais à la base, il y a des gens qui agissent au nom de l'entreprise, et ces gens-là, je crois qu'ils doivent répondre quelque part.
Mais ils sont des clandestins, les victimes.
Bon, les victimes ne sont pas des clandestins parce qu'ils doivent avoir payé. Je ne pense pas que tous ceux qui étaient à bord de ce wagon-là sont montés pendant que les trains roulaient. Ils doivent avoir monté quelque part quand les trains. Et puis, c'est un point de responsabilité. La SNCC a tout un corps de surveillance, de policiers qui sont là pour ça aussi.
Patrick Casson, comme cause du déraillement, on parle d'un problème de freinage, de la surcharge du train, de la vétusté du matériel roulant. Vous ne trouvez pas là que ça pose la problématique du fonctionnement inadéquat de cette entreprise publique et ça doit interpeller les gouvernements?
Mais effectivement, dans cette affaire, il n'y a pas plus responsable que ceux qui dirigent cette Société Nationale de Chemin de Fer. Ce sont eux qui sont responsables, parce que tous ces détails, il y a la vétusté, que ce soit des locomotives, des rails, tout est vieux, ils le savent. Ils savent aussi qu'au sein de leur société, il y a des arriérés que jusque-là, ils n'ont pas payé. Ils savent que ces machinistes, en chemin, ils se font des petits colis. Mais, je vous le dis, mes frères, quand il y a mort d'homme, là, tout le monde revient à la raison. Dire qu'on ne va pas indemniser ces familles parce qu'ils sont considérés clandestins, moi je dis que non, ça c'est de mauvaise foi. Il faut penser à venir en aide à ces familles qui sont des Congolais. Si la SNCC avait présenté un train de bonne facture, vraiment idéal, avec des places, il y avait un moyen de quitter Inebo pour Katongé ou ailleurs, ben, toutes ces personnes seraient passées par le guichet officiel. Mais quand on risque même, au XXIe siècle, encore en RDC, de faire des 150 km à pied et qu'on a une occasion où un train passe devant vous, vous êtes sûr que même si c'était vous, autorité avec votre famille, vous ne serez pas tenté d'y monter. Et là, quand le machiniste, lui, par des excès, je ne sais pas, il a été très content d'avoir peut-être empoché de l'argent de 200 personnes, il se fait des excès de vitesse pour arriver presto là où il va, et que tout tourne au pire, vous dites que ces personnes-là sont considérées comme des marchandises, que c'est ça le langage qu'il faut tenir. Si vous dites que vous n'indemnisez pas, donc vous considérez que ces personnes sont comme des marchandises. Là, je ne pense pas. Il faut que le gouvernement vienne à bien réfléchir. Ils doivent penser que ce sont des fils et des filles de notre pays qui sont morts. Ils ont payé de leur vie. Il est tout à fait normal de penser quelque chose. En fait, si eux, au moins, ils ne vivront plus, mais où est passé toute leur marchandise, tout ce qu'ils ont perdu, leur famille doit quand même penser récupérer. Mais récupérer où? Au fond de l'eau? Non, il y a quand même des autorités. Donc ce sont elles qui doivent prendre cette responsabilité-là, surtout quand on préconise la bonne gouvernance.
Oui, Désiré Bahiré, un peu vite là. Au sujet de cet accident, il y a les potentiels, les gens, les potentiels bien sûr, qui constatent que l'État congolais qui a eu à enregistrer par le passé d'autres déraillements mortels sur le même tronçon Kananga-Ilebo continue d'être toujours surpris, entre guillemets, par des événements pourtant prévisibles. Que doit-on faire pour éviter prochainement ce genre de drames?
Non, je ne pense pas. D'abord, je dois dire que la SNCC ne peut pas dire qu'elle est toujours surprise. Ça, c'est pas vrai. Parce que la SNCC connaît bien que ce tronçon-là est un tronçon qui n'est pas réhabilité. Les machines accusent la vétusté et tout ça. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, il faut à un moment s'arrêter. Et puis, voir les choses. Mais là, peut-être ici, on va parler des états généraux, mais on fait des états généraux pourquoi? Il faut faire une relecture, il faut à un moment s'arrêter. On a eu la conférence nationale, on a essayé de voir tous les problèmes qui se posent dans ce pays. À un moment, il faut s'arrêter et puis dire, ça ne va pas de tel côté, et tant qu'on n'arrange pas là-bas, on ne continue pas. C'est ça le problème. Mais demain, ce train va encore recirculer. Hein. Nous allons encore apprendre peut-être dans 10 ans, ou dans 2 mois, ou dans 1 an, qu'il y a encore accident. Alors qu'on en parle aujourd'hui, il y a des morts, plus de 150 morts. C'est pas la première fois, et ce ne sera pas la dernière fois, tant qu'on ne va pas s'arrêter à un moment pour dire, on ne peut pas continuer tant qu'on n'a pas réparé ce qu'il faut.
Dani Ndongidi, pour vous, quelle solution pour qu'il n'y ait pas un autre état qui n'est rien?
Il faut une politique, une bonne politique générale d'abord, de la SNCC par rapport au chemin de fer au Congo, et puis construire. Il ne faut pas réhabiliter tout le temps, parce que nous, on est habitués à réhabiliter ce qu'on nous a laissé. Non, il faut construire des bons chemins de fer et des mesures de sécurité aux normes internationales. Donc c'est ça, quoi. En gros, c'est ça.
Oui, car là, tu m'entends là, un peu vite aussi. La même problématique du transport ferroviaire se pose aussi dans la ville de Kinshasa, avec l'ONATRA. Ne craignez-vous pas que les Kinois risquent de vivre les mêmes drames?
Non, écoutez, on ne peut pas ici prédire qu'il n'y aura plus d'accidents. Les accidents, ça, c'est lié à la nature des individus. Mais les hommes, parce qu'ils ont la capacité de prévenir ces événements-là, doivent mettre en place des mécanismes pour que cela ne nous arrive pas. Quand nous voyons ce qui se passe aujourd'hui, si vous êtes sur Paul Louis, vous voyez les trains de l'ONATRA passer. Mais chaque jour, il doit y avoir des morts. Mais quand l'ONATRA démarre à la gare, il y a des jeunes gens qui se mettent même en dessous du train. Mais les gens, on laisse faire. Les jours où on fait un meurtre, c'est à ce moment-là qu'on va crier pour dire que personne n'a pas. Mais tout le monde est au courant de ce qui se passe, mais personne ne veut de l'ordre. Il a dit seulement dans la ville de Kinshasa, le fait que
tout le monde comprend les autorités.
Oui, complète. Enfin, les autorités ont leur part de responsabilité, mais il faut que la population commence à comprendre qu'il faut être dans le bon sens. Ici, je remarque que même quand on demande à ce qu'on mette de l'ordre dans la ville, il y a de la résistance. Donc, il y a un problème qui se pose, d'où peut-être ceux qui ont lancé la campagne
de changement de mentalité.
Il faut, apparemment, le gouvernement ne s'est pas impliqué. C'est un problème qui se pose. Parce que si on n'a pas changé le mental des gens, le reste ne se voit pas.
Et Patrick Kassong, comment peut-on remédier au système de transport ferroviaire? Évidemment, il se pose aussi un problème au Bas-Congo.
Oui, effectivement. Dans tout ça, il faudrait faire la politique de ses moyens. Comme on dit, l'ONATRA a une police. Il faudrait bien que ce train de marchandises soit escorté. Mais aussi, les autorités de la SNCC doivent changer de politique salariale. Il faudrait que tous ces personnels qui font des longs trajets, qui passent des nuits, toute une journée en plein service, il faut penser les rémunérer à temps. Combien même que ce soit l'air soit modique, mais qu'il soit perçu à temps, car le Congolais a l'habitude de travailler consciencieusement quand il est bien rémunéré régulièrement. Et bien entendu, chercher à changer tout ce qui est vétuste, pas réhabiliter, pas chercher à changer de couleur, renforcer de la colle. Non, il faudrait penser acheter du matériel neuf, pour que la société revive et refasse, bien entendu, des recettes au gré du gouvernement.
Ok, merci Patrick. Tribune de la presse, retour sur les faits marquants de la semaine. Deuxième sujet de notre émission, Trésor Kapuku, gouverneur de la province du Kasaï occidental, déchu le 7 juin 2007 par l'Assemblée provinciale, a été réhabilité dans ses fonctions. Il a même régalé le chef de la province mardi dernier. Le 31 juillet dernier, la Cour suprême de justice a déclaré la motion de défiance lancée contre lui par les députés provinciaux inconstitutionnelle. Maître Matadi Wamba, avocat près la Cour suprême de justice, dans le sens de cet arrêt de la Cour, il est joint par Guy Roger Nampala.
Les arguments soulevés par les demandeurs étaient justes et fondés, et c'est pour cela que la Cour a déclaré inconstitutionnelle la motion de l'Assemblée provinciale. Donc, et ça, c'est une appréciation souveraine du tribunal.
Pourquoi la Cour a-t-elle pris beaucoup de temps pour statuer sur une question aussi délicate?
Je ne sais pas dans combien de temps la Cour devait se prononcer. Là, je ne sais pas vous dire pourquoi elle a pris beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps, combien de semaines, je ne le sais. Ça dépend du travail que ces magistrats ont dans la Chambre. Hein. Quand une affaire arrive devant le tribunal, devant la Cour suprême, bon, elle est la énième. Il y a d'autres affaires qui ont précédé. Les difficultés dans le dossier peuvent justifier le temps à prendre. Le travail que les magistrats ont, tout cela peut entrer en ligne de compte. Hein. Moi, j'ai introduit des pouvoirs en cassation il y a 15 ans, ils n'ont pas encore tranché.
Et maître, quelle sera la suite?
La requête recevable est fondée. La traduction, c'est que la motion n'existe pas.
Et nous pouvons dire en ce moment, le gouverneur est réhabilité.
Et bien sûr. De toutes les manières, c'est ça que ça signifie. Si l'Assemblée a de justes motifs, elle pourra réintroduire sa motion, sinon alors il faut attendre une autre occasion.
Désiré Bayeré, dans cette affaire, le journal La Prospérité voit un Kapuku qui perd, un Kapuku qui gagne. Est-ce que votre perception aussi?
Non, au-delà de tout ça, moi je crois que nous sommes dans une jeune démocratie. Il faut qu'on apprenne aussi à exercer cette jeune démocratie. Je pense que c'est d'abord la victoire de la justice. Ce n'est pas la victoire des Kapuku ni de l'Assemblée provinciale. C'est la victoire de la justice. Et ce que je sache, jusqu'aujourd'hui, les arrêts de la Cour suprême sont sans appel. Et donc, le gouverneur est réhabilité. Mais comme on a écrit aussi dans certains journaux, c'est pas aussi une occasion de triomphalisme de sa part. Parce qu'après tout, il va travailler avec cette Assemblée provinciale pendant son mandat. Et d'autre part, il faudra que l'Assemblée aussi comprenne qu'elle était un peu en erreur, elle a précipité les choses. Et dans toute chose, moi je pense que c'est la victoire de la justice. On n'a qu'à appliquer cet arrêt, c'est ce qui importe. Mais aussi, les gouverneurs et l'Assemblée provinciale doivent travailler main dans la main.
Benny Ndoubidi, voyez-vous un gouverneur Raga Yardi qui retourne aux affaires, ou plutôt un gouverneur corrigé qui a des justesses ratées à la défenestration?
Ni l'un ni l'autre. Mais ce que je vois, c'est que c'est bien que la justice soit tranchée. Les raisons sont connues parce qu'il n'avait pas encore présenté son gouvernement, je crois. Il n'avait pas encore présenté son programme. Mais il y a à craindre que, une fois qu'il aura présenté ce programme et qu'il aura composé son gouvernement, que l'Assemblée provinciale puisse de nouveau adopter une motion de défiance. Et là, on aura quel cas de figure? Le gouverneur risque de partir. Donc, ce que je peux, je ne veux pas m'ériger en conseiller du gouverneur, ce que je peux lui dire, c'est que de voir un peu ce qu'on lui reprochait avant cette motion de défiance.
On met le vin dans son vin.
Oui, oui.
De l'eau plutôt dans son vin.
Un peu changer son attitude par rapport à cette assemblée provinciale pour éviter que dans le futur, ne puisse y avoir une autre motion de défiance contre lui.
Karl Alachimantinda, comment vous avez traité ces dossiers dans votre journal?
Écoutez, moi, je suis d'abord peiné par le comportement de nos compatriotes. Je crois que si le problème qui se pose, ce n'est pas tellement un problème de Kapuku ou un problème du président de l'Assemblée provinciale, parce que le problème, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a un problème entre le président de l'Assemblée provinciale et qui a été délogé par Kapuku à un moment donné. Il occupait une maison et sans doute, il a sauté sur l'occasion pour le régler des comptes. Mais quand nous regardons ce qui se passe fondamentalement, je me dis, est-ce que c'est Kapuku qu'on gêne ou c'est toutes les provinces qu'on ne veut pas que ça se développe? Au moins, nous parlons pratiquement toutes les provinces. Ils ont mis en place leur gouvernement, ils sont pratiquement en train de travailler. Aujourd'hui, les autres n'étaient en train de tourner autour d'une motion. C'est vrai que demain, si l'Assemblée veut gêner Kapuku, on va le gêner, comme a dit le confrère tout à l'heure, parce qu'il ne sera pas passé par une autre voie, si ce n'est que devant la même Assemblée. Il faut que les uns et les autres se mettent ensemble pour voir qu'est-ce qui peut les unir pour aller de l'avant, développer la province qui est parmi les provinces les plus pauvres de ce pays.
Oui, mais Karachimantinda, les députés provinciaux ont reproché au gouvernement Kapuku l'arrogance à outrance, la médisance, l'attitude hautaine, la conflictualité, la mégalomanie, etc. Pensez-vous que le chef de l'exécutif provincial aurait compris avec cette tentative de défenestration?
Ce sont les mêmes députés qui ont élu Kapuku tout en état hautain. Comment subitement ils se rendent compte qu'il est hautain? Donc, trouvons un modus vivendi pour cheminer ensemble vers l'essentiel. Les débats sur les hommes, moi je crois que ce pays, après 40 ans, vous imaginez Mobutu a eu les meilleurs ministres du monde, les diplômés qui ont étudié dans les grandes universités, mais regardez l'état où se trouve dans le pays. Ce n'est pas un problème d'homme. Quand vous pouvez partir, on mettrait quelqu'un d'autre, il va tourner en rond, et la province est restée telle qu'elle a été, Lubaye est passé par là, il n'a rien fait, et d'autres personnes sont passées par là, ils n'ont rien fait. Donc, mettons les gens vers le programme qui peut sauver la population. Tout à l'heure, au début, on a dit que les gens, Kabila est allé voir, certes, les gens qui sont morts, mais les malades dorment sur des lits métalliques. Mais combien coûte Matela Kinshasa? Regardez les soutiens du Kassam Soudantan, dans quel bâtiment ils ne roulent pas. Les gens, quand ils vont dans les concerts des musiciens,
je vous donne les prix, 10 cm, c'est moins de 20 dollars.
Mais quelqu'un préfère un don de 100 mètres là, moi je te parle. Pour que ces gens-là dorment convenablement, après avoir été sur des wagons. Donc la souffrance continue, mais les gens se battent pour des futilités. Je crois que nous devons nous mettre d'accord pour avancer ici. C'est l'occasion peut-être de souligner le fait que pendant que tout le monde est en train de jouer, ceux qui font tout par les Qatar se rendent compte que là-bas, les gens sont en train de prendre conscience et ils vont décoller. Et si demain ils vous disent que nous pouvons peut-être décréter notre sécession parce que vous ne voulez pas avancer, vous n'allez pas les condamner.
Patrick Casson, vous êtes toujours en ligne?
Je suis en ligne.
Oui, chez vous, au Bas-Congo, on espère que la cohabitation est pacifique entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale.
Oui, effectivement, les cordons se sont harmonisés. N'oubliez pas qu'ici, au Bas-Congo, il y a eu aussi cette tension tout autour et de l'élection du gouverneur et ce gouvernement de province. En fait, s'il faudrait y revenir, l'heure n'est pas à la guéguerre, c'est lui, c'est moi ou c'est personne. Non, l'heure est à ce que tous les Congolais comprennent qu'on a beaucoup souffert, notamment nos frères du Kasaï. Je me joins aux analyses de Kalala pour dire que l'heure est à la construction. Kapuku, c'est peut-être ce souci de chercher à mieux faire, ça c'est un peu le point fort de nos frères kasaïens. Même dans le gouvernement provincial, tous ont pensé mieux faire. Mais le mieux serait d'aller mollo, laisser le temps au temps. Kapuku, si peut-être il a été amené à souffrir de cette motion de décision, c'est parce que lui aussi a voulu mettre la charrue avant le bœuf. Donc chacun, au regard de cette situation aujourd'hui qui réhabilite le gouverneur Kapuku, que chacun tire une leçon de voir, d'harmoniser comme nous ici au Bas-Congo, le gouverneur et son gouvernement provincial ainsi que l'Assemblée provinciale ont accordé leur violon. Chacun est dans son périmètre afin que la province fonctionne et aille de l'avant. Les autres provinces, prenant notamment celle du Katanga, ils sont en train d'évoluer. La province du Katanga se permet déjà à faire des dons à d'autres provinces. Quand le Bas-Congo le fera, quand le Kasaï le fera, c'est pas seulement donné au Katanga, cela dépend de la bonne volonté de ces Congolais qui sont à ces postes-là. Donc l'heure n'est vraiment plus à chercher à des petits conflits internes, mais plutôt à s'unir pour le succès de nos provinces respectives.
Merci Patrick. Désiré Bahiré, quelles conséquences sur la gestion de la province si ces bras de fer persistaient entre ces deux institutions?
Oui, mais la conséquence logique, c'est que la province n'arrivera jamais à décoller. Je pense qu'on n'a pas besoin de ce conflit-là, de ce bras de fer-là. On l'a déjà dit, et les confrères l'ont dit, Trésor Kapuku ne peut pas échapper, il ne peut pas passer outre l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale aussi, pour faire exécuter ce qu'elle peut prendre comme disposition, comme loi, ne peut pas passer outre Kapuku. Je pense qu'ils ont la raison maintenant de se ressaisir et de marcher, comme je l'ai dit, main dans la main. Parce que n'oubliez pas que c'est ce Trésor Kapuku-là, qui est membre du RCD, et qui s'est présenté sur la liste AMP, et qui a été élu par les députés de
les mêmes
majoritaires aussi, quand l'opposition. Je ne comprends pas aujourd'hui que les choses puissent changer. Je pense qu'il ne leur reste que 4 ans. Et je ne sais pas s'ils réalisent cela. Ça passe très vite et il faut qu'ils se mettent au travail.
Oui, Dany, comment apaiser la tempête et créer un climat harmonieux entre ces deux institutions?
Tout peut être calmé seulement par le dialogue. On a connu la même situation ici à Kinshasa entre le gouvernement de Kumbuta et l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mais la situation s'est calmée. Le cas au Bas-Congo, je crois également qu'il y avait une motion de défiance au sud Kivu, au nord Kivu, je ne sais plus. Mais les gens doivent comprendre qu'il est temps d'abord que les institutions puissent vraiment s'enraciner pendant très longtemps, parce qu'on a eu un certain moment peur pour l'Assemblée nationale et la Cour suprême. Il y a eu un séminaire interinstitutionnel pour dire que nous devons tous travailler la main dans la main, regarder dans la même direction et que les luttes intestines et les discussions byzantines doivent être mises de côté.
Et Kala Chimakinda, la solution pour une cohabitation pacifique?
Beaucoup de fois, absolument, qu'ils arrivent à s'entendre, il faut se parler, il faut dialoguer. Ils sont tous originaires du Kasaï. Si demain ce pays arrivait à être balkanisé, ils vont vivre ensemble. Donc, Kapuku ne sera pas déporté du Kasaï pour aller faire le bonheur au Bas-Congo. Donc, il sera obligé de vivre ensemble. Et ici, il y a même une petite irrégularité qu'il faut soulever, c'est qu'en principe, Kapuku était élu sur un ticket. On n'a pas compris comment il y a que le gouverneur qui a été visé et le vice-gouverneur était resté en fonction. Tout ça aussi, c'est des choses sur lesquelles les gens n'arrivent pas à se poser autant de questions. Mais comme on est dans un pays où quand on veut noyer un sachet,
on l'accuse de rage. Patrick Kassong, que faire pour éviter que les gouverneurs et les députés provinciaux ne se regardent pas comme des chiens de faïence du Black and White?
c'est au numéro un de la province de montrer aux yeux et de ses administrés et de l'Assemblée provinciale qu'il est digne de diriger cette province. C'est à lui de faire le premier pas, d'attirer l'attention de l'Assemblée, de chercher à faire renaître cette ambiance qu'il doit vivre entre eux, parce qu'ils sont appelés, comme l'a relevé un confrère là, pendant 4 ans, de cheminer ensemble pour la réussite de leur province.
Tribune de la presse, retour sur les faits marquants de la semaine. Je vous rappelle que nous avons dans ces studios Désiré Bayeré, rédacteur en chef du journal Les Citoyens, Dany Ndungidi, journaliste au quotidien Uhuru, et Kalala Kimankinda, éditeur du journal Tendance. Au téléphone, nous avons Patrick Casson, il est directeur des programmes de la radio télé évangélique de Mwanda Obakongo. Troisième sujet de notre tribune, il s'est ouvert ce mercredi au centre Nganda de Kinshasa, les états généraux des affaires foncières. Ces travaux vont aboutir aussi au lancement de l'opération des changements des titres des documents des propriétés appelés généralement titres immobiliers et fonciers. 150 participants venus de toutes les provinces vont ainsi faire l'état des lieux de ces secteurs à la base de plusieurs conflits dans notre société. Le gouvernement tient à mettre de l'ordre dans l'acquisition et la possession des terres. Babel Mpongo a assisté à l'ouverture de ces travaux. Suivez son reportage.
La vétusté des méthodes d'élaboration et de conservation des plans de CADAT, aux plans découpant et délimitant les terrains, ainsi que l'inexistence des archives, sont parmi les causes du déclin du secteur foncier dans notre pays. La ministre des Affaires foncières ajoute à cela l'insuffisance de la vulgarisation de nouvelles mesures sur le régime foncier et le manque d'éthique des agents de ce secteur. Ces derniers profitent souvent de l'ignorance de la population pour procéder aux ventes dans des surfaces où le lotissement est interdit. Ce dernier cas est à la base de nombreux conflits immobiliers et fonciers enregistrés dans les cours des tribunaux et des démolitions telles que nous l'avons vu une même fois à Kinshasa. Ces états généraux vont donc passer en revue sur les différents problèmes qui se posent dans les secteurs fonciers à travers le pays et apporter des pistes de solutions. Le secrétaire général des affaires foncières donne ici l'une des solutions.
Toute personne qui détient une maison doit avoir un certificat d'enregistrement qui est le seul titre légal. Si jamais nous assainissons cette pratique, nous allons connaître la baisse des conflits, croître les recettes et nous allons instaurer une nouvelle gouvernance en matière foncière.
Concrètement, comment se fera cette conversion des anciens titres fonciers? Bénédicte Chey, directeur du cabinet du ministre des Affaires foncières.
La semaine prochaine, nous allons inviter la population à convertir des livres de logeurs et autres documents en titre et en cours légal. Nous aurons à l'occasion à pratiquer un rabais.
Ces assises mettront aussi en accent sur la responsabilité pénale des fonctionnaires dans la rédaction des actes et la consécration de droits et se pencheront aussi sur les moyens pour mettre en place un fonds de promotion foncière.
Denis, vous avez suivi les reportages de Babel Mpongo. Votre commentaire?
Bon, je constate tout d'abord que, comme on l'a dit ici, ça ne servait à rien de tenir des états généraux, parce que, comme l'a dit votre journaliste, la ministre a déjà énuméré tous les problèmes qu'il y a dans le secteur, et le secrétaire général parle déjà des solutions qu'ils vont mettre en place. Alors, à quoi servent ces états généraux? Donc, moi, je pense que le vrai problème dans ce domaine, c'est d'appliquer simplement ce qui existe. Ce n'était pas le moment opportun pour organiser ces états généraux.
Oui, ça va là. Le journal Les Potentiels abonde dans le même sens. Il qualifie tous ces états généraux, c'est un temps d'arnaque. Hein, une sorte d'exhibitionnisme de la part des ministres, du tapage médiatique pour prouver qu'ils travaillent et peut-être éviter la sanction du chef de l'État au mois de septembre prochain, comme il avait déjà promis. Et c'est aussi votre façon de voir les choses.
Écoutez, c'est tout à fait, je partage l'analyse, je dis que c'est de la basse blague. Et je crois qu'ici, chez nous, on n'a plus besoin des états généraux. Aujourd'hui, je crois qu'en suivant un des responsables qui est passé tout à l'heure, il dit qu'ils vont mettre de l'ordre, notamment en ce qui concerne
la possession. Notamment les
certificats d'enregistrement. Mais quand vous allez aujourd'hui dans les cours et tribunaux, 60% des procès, c'est toujours lié à des problèmes parcellaires. Et vous verrez 3-4 personnes, chacun venir avec son certificat d'enregistrement. Et ces certificats d'enregistrement sont délivrés par des services compétents. Si on avait fait les états généraux pour sanctionner les agents du cadastre et ceux de circonscription foncière, là j'ai l'applaudi. Mais là, je crois que, comme dans ces pays, lorsqu'on doit faire un bilan, c'est peut-être il y en a qui font des bilans en disant moi j'ai fait 40 voyages, d'autres vont vous dire nous n'avons pas les états généraux. La question c'est de savoir qui est-ce que l'État avait de l'argent pour financer ces états généraux, quel est l'apport ça va mener à l'État. Donc quelque part je crois que c'est décevant quand on nomme des gens qui n'ont même pas, qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire, on arrive généralement à des résultats pareils.
Oui, Désiré Bayeré, l'État veut mettre de l'ordre dans l'acquisition et la possession des terres. Est-ce que c'est une sorte de mea culpa?
Je ne sais pas si c'est une sorte de mea culpa. En quelque sorte, oui, parce que le plus grand problème, là, tous les désordres qu'on constate dans l'acquisition des titres et des propriétés ou quoi, c'est de la part des agents de l'État qui travaillent dans les services cadastraux, dans les services fonciers. Ce sont ces agents-là qui octroient à 10 personnes les mêmes certificats d'enregistrement. Ce sont ces agents-là qui passent à tout moment pour demander des taxes. Moi, je crois qu'aujourd'hui, bon, comme on l'a dit, hein, les problèmes, on les connaît, les états généraux, bien sûr, mais d'abord, le problème, c'est l'éthique et la déontologie de ces agents-là qui travaillent dans les services cadastraux, dans les services fonciers, les ministères des affaires foncières, de la tête jusqu'aux pieds. Il faudra d'abord que les agents, les gens qui travaillent là-bas puissent savoir quelles sont leurs limites, quelles sont leurs compétences et comment ils doivent agir. Et moi, je pense qu'il faut même avoir une police des affaires foncières, quelque part, surtout pour suivre ces agents-là, parce que c'est eux qui sont à la base de tous les conflits que nous constatons.
Patrick Casson, qu'attend particulièrement les Bas-Congo de ces états généraux?
Effectivement, qui est, comme vient de le dire Désiré, une police des affaires foncières. Parce qu'au fait, c'est un autre secteur qui gangrène dans ce pays et qui fasse que des fils et des filles sont en train de mourir jusqu'à ce jour, de s'appauvrir à cause de ces agents-là. Il faudrait que, au sortir de ces états généraux, le Bas-Congo, nous attendons que ces agents-là soient sanctionnés. Parce que ce sont eux qui ont vendu ces espaces, ces lieux publics et en prise de l'État à des individus. Et ce sont les mêmes agents qui vont montrer à la police et au gouvernement provincial, écoutez, ici, ça appartient à l'État. Et ils sont libres. Ce sont ces pauvres gens que eux ont entraînés de force ou de ruse à acheter ces endroits. Ce sont eux qui en pâtissent maintenant. Mais ces agents-là sont vraiment comme si de rien n'était. Donc il faudrait que Madame la Ministre et toute son équipe puissent vraiment réguler. S'il faudrait changer les agents, qu'ils le fassent. Parce que dans ce ministère, nous en avons vu de toutes les couleurs. Il faudrait vraiment que, au sortir de ces états généraux, que l'on sente réellement qu'une personne qui acquiert une portion de terre, eh bien, qu'il soit sûr que ces découvrements sont authentiques et que si on change de ministre, qu'il ne soit plus poursuivi.
Oui, Dani, vous ne trouvez pas qu'avec cet exercice du ministère des Affaires foncières, on cherche à éviter les conflits du genre si tu t'aimes la télé, si tu pratiques ce comparo et bien d'autres sur l'étendue du territoire national?
Bien sûr, ce sont des situations véritables qu'il faut éviter dans le futur, parce qu'il y a des familles entières qui avaient investi dans des maisons construites sur ces différents sites. Et comme on en parle, je voudrais soulever, comme vous avez le site de l'IFACIC, il y a une politique de deux poids, deux mesures. On a détruit partout ailleurs, mais jusque-là, ce site, il y a toujours des maisons qui sont construites là-bas, qui restent valables jusqu'à aujourd'hui. Alors que c'est un site classé, parmi les sites rouges où on devait détruire, on ne comprend pas pourquoi ça reste encore là jusqu'à présent. Donc, pour répondre à votre question, oui, c'est bien d'éviter ce genre de conflit, parce que même tout récemment, on a vu un ministre chasser de son bureau parce que soit disant que ça ne lui appartenait pas, ça n'appartenait pas à l'État. Donc, c'est bien. Je crois que le Premier ministre avait également mis en place une commission pour récupérer les biens et de l'État. Ce sont des bonnes choses, mais ça ne nécessitait pas nécessairement les états généraux pour qu'on puisse appliquer.
C'est du gaspillage.
C'est du gaspillage totalement. Pour qu'on puisse appliquer ce qui existe déjà comme loi.
Oui, Carla Batimantunda, un dernier commentaire.
Bon, moi, je crois que pour l'instant, je suis de ceux qui pensent que des sites comme des sites IFACIC ou Hôtel de Ville, ça ne sert à rien de détruire ça pour le moment. Je crois peut-être que si l'État peut avoir une autre politique, c'est d'aller saisir cette maison-là
Et en fait, pendant un quartier de ministres, aujourd'hui, comme on nomme des ministres chaque fois, et à l'époque, on nommait des ministres, il y avait des maisons pour les loger. Aujourd'hui, des ministres, quand ils sont nommés, ils quittent qu'ils sont pour loger à l'intérieur. Mais on peut créer, par exemple, une cité ministérable, comme on a vu des quartiers des ambassadeurs à Kinshasa, et chaque fois qu'il y a des ministres qui changent, on sait qu'il y a été le village de Marotel, et les ministres vont l'occuper, créer, de continuer à détruire, parce que si vous passez par là, que vous voyez aussi les types de maisons que nos compatriotes ont érigées, détruire, c'est quand même un peu de la société.
C'est le sens. Alors, Désiré Bayeret, votre commentaire?
Ben oui, j'attends beaucoup de ces assises-là, hein, parce que moi-même j'ai un conflit aussi dans ce sens. Hein. Le procès commence au mois de septembre ici, et je pense que il y a un journal qui a écrit aussi tous ces conflits menacent la paix sociale. Vous savez, on n'est pas en paix quand on a acheté, on a acquis une maison et puis on vous dit que ça ne nous appartient pas, ou bien on vous dit qu'on vient de vendre à une tierce personne. Vous voyez que vous ne pouvez pas être dans la paix. Mais je pense aussi que bon, il faudra éviter que ce soit de l'exhibitionnisme, que ce soit du spectacle que nous vivons là pour la consommation médiatique, et puis après il n'y a plus rien. J'espère vraiment que Radio Okapi reviendra 3 mois, 5 mois, 1 an après pour faire aussi le bilan de ces états généraux, si ça nous a apporté quelque chose.
Merci beaucoup Désiré Bayeré, tribune de la presse. On est ainsi fini pour ce vendredi. C'est Kelly Kouté qui a préparé cette émission. Nadine Foula l'a réalisé et Willem Lungamba était à la prise de son. Nous disons merci à tous nos invités, Désiré Bayeré, Kalala Chimankinda, Dani Ngungudi et Patrick Kasson. Merci aussi à vous, nos auditeurs, pour nous avoir suivis. Thank you.